Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cuisine un peu fitness. On va parler de faux sucre, on va parler de prise de muscles qui résistent. On va parler également de l'obésité des enfants liée à la publicité. Et si tout va bien, on parlera aussi on va aussi parler d'huile de friture, d'ailleurs. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'imagine que chez vous, c'est pareil, il fait froid. En tout cas, quand j'enregistre là, ça caille sévère. Et on n'est pas habitué ici, dans le sud, à ce qu'il fasse aussi froid cette période. Normalement, on a tendance à commencer à faire un peu les malins, à sortir un petit peu sans la veste et tout ça. Mais là, non, il y a le grand froid qui est là. Bon, bref. C'est pas grave, on se couvre et on attend que ça passe. Alors, le premier sujet, on va parler. Alors, juste avant de sortir les actus, ce week-end, j'ai sorti un nouveau plan d'entraînement que vous avez dû voir à 10h dimanche matin, qui s'appelle le slow training, donc training lent. Et training lent veut pas dire que vous prenez 3 heures pour vous entraîner, ça veut simplement dire que c'est réglé sur un tempo de répétition plus lent. Vous avez déjà dû le voir en salle de muscu, les gens qui s'entraînent lentement et les gens qui s'entraînent, on va dire, d'une manière standard, c'est-à-dire qu'ils ont une cadence de répétition qui est normale, enfin qui vous semble pas ralentie en tout cas. Et c'est vrai que on a eu beaucoup d'a priori par rapport où l'entraînement. En fait, c'est la perception. Il y a eu beaucoup de gens qui disaient s'entraîner rapidement, c'est pas bien parce qu'on ressent pas bien son muscle, etc. Et à l'inverse, ceux qui critiquaient l'entraînement lent, qui disaient c'est pas bien parce que en s'entraînant lentement, on est obligé de mettre moins lourd, donc du coup on fait moins de performances, donc c'est moins bien pour la prise de masse musculaire. Il y a ceux qui défendent la violence, donc l'intensité de contraction et d'étirement, et d'autres qui vont être plus sur le contrôle pour ressentir. L'intérêt de ce programme que j'ai proposé, c'est qu'il est basé sur des études. Donc ils ont étudié divers cadences, divers tempos, et ils ont trouvé quand même un certain intérêt à s'entraîner lentement. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est un outil. Ça n'est pas une manière de s'entraîner mieux, moins bien, plus anabolique ou non. C'est une manière de s'entraîner qui peut vous convenir si vous remplissez certaines cases, entre guillemets. Donc c'est pour ça, je sais que beaucoup cherchent la méthode, vous savez, la méthode, je veux avoir tous les éléments qui vont me donner des résultats le plus rapidement possible et les appliquer, comme ça au moins je ne perds pas de temps. Sauf que ça, c'est un mauvais raisonnement de débutant. Le bon raisonnement, c'est de se dire, ok, il y a divers outils qui existent. Tous ces outils fonctionnent logiquement en fonction de mes besoins, entre guillemets. C'est-à-dire que je vous prends un exemple relativement simple. Si vous sortez d'une tendinite ou quoi, je vous déconseille de passer sur de l'entraînement explosif. Je vous recommanderais plutôt de faire un entraînement type celui-là, là, le slow training. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres avantages à utiliser ça. Et vous le savez, de toute façon, on signe pas pour 3 mois d'entraînement. En règle générale, si vous êtes passionné comme moi, on signe pour toute une vie d'activité physique. Donc c'est toujours bien d'avoir divers moyens de s'entraîner. Ça permet parfois de relancer une certaine motivation qui pourrait être un petit peu, diminuée par la routine qui n'a pas changé depuis un certain nombre de semaines ou de mois. Et donc voilà, ça permet un petit peu de voir ça, quoi. Donc allez voir, le programme complet est disponible dans la description du podcast. Vous avez un lien pour accéder aux notes, vous le verrez sur le site, il est disponible. Ou sinon, vous, normalement, vous avez dû le recevoir par email le dimanche. Et si vous l'avez pas vu, bah c'est qu'encore une fois, le mail est parti en spam. Voilà, c'est un petit peu la nouvelle règle maintenant. Même quand on partage du contenu, ça peut partir en spam. On n'est pas obligé de faire de la publicité pour des agrandisseurs de je ne sais pas trop quoi. J'avais pas envie de le prononcer là parce que c'est pas trop. Je sais même pas si ça va pas être banni si je le dis, mais bon. Voilà. Dans les spams, maintenant, on n'a pas que des trucs de type spam. On a aussi des mails importants. Et parfois, même des discussions entre proches, on se retrouve à avoir le mail en spam, quoi. Bref. Alors, premier sujet, obésité des enfants et publicité. Bon. Donc, c'est sur un journal suisse qui titre « Obésité infantile, la publicité mise en cause ». Alors que l'obésité infantile ne cesse d'augmenter, certains pays réglementent la promotion de la malbouffe. La Suisse à la traîne. Faut-il légiférer comme pour les produits du tabac ? Donc ils disent aujourd'hui en Suisse, 17,2% des enfants sont en surpoids et chez les adultes, ce pourcentage monte à 40%. 17% des enfants en surpoids, ça commence à faire quand même. Hein. Vous prenez 10 gosses, il y en a quasiment deux qui sont en surpoids et vous prenez 10 adultes, il y en a 4 qui sont en surpoids. Ce qui me semble, pour les Suisses, hein, ce qui me semble... Alors, il faudrait encore une fois, dès qu'on définit ce qu'est le surpoids, donc un tour de taille, vous savez, au-delà de je sais plus combien pour les hommes, je crois que c'est 92, et pour les femmes, 88. Enfin, je sais, il y a un chiffre que j'ai déjà donné dans le podcast, je l'ai plus en tête exactement, surtout qu'il change régulièrement. Enfin, pas régulièrement, mais il a tendance à changer. Quand on prend ces chiffres-là de tour de taille, à mon avis, on se retrouve avec beaucoup plus de personnes en surpoids que 40%. Et je pense que les gens se sont dit, les chercheurs, en fait, ceux qui font les études, ils se disent, bon, ben non, nous, quand on a détecté qu'au-dessus de tant de centimètres de tour de taille, ça commençait à devenir, c'est la mauvaise pente, quoi. Sauf que si on applique ça au monde réel, qu'on donne la donnée brute comme ça au grand public, quasiment tout le monde est en surpoids. Enfin, le bide, ça peut aller très, très vite, quoi. Bref. Donc ils disent diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, problèmes métaboliques font partie des conséquences du surpoids auxquelles s'ajoutent parfois des troubles du comportement alimentaire, tatada, donc ils racontent, et ils parlent de la malbouffe attrayante. Donc Laurence Margot a terminé un travail sur la régulation de la publicité influençant les choix alimentaires des jeunes. Elle explique la Suisse est laxiste en matière de marketing ciblé sur les enfants. Certaines entreprises ont cependant signé une convention volontaire baptisée Swiss Pledge, mais elle est peu contraignante. Elle impose une restriction des campagnes publicitaires destinées aux moins de 12 ans et une interdiction de diffusion pendant les émissions de télévision pour enfants. Mais cela n'a que peu d'impact. Les jeunes sont également devant l'écran pendant les prime time. Devant les écrans, quoi. Étiquetage et marketing digital. Donc, ils disent, que faire pour éviter que nos bambins ne deviennent les victimes d'un marketing qui laisse entendre que la clé du bonheur se trouve dans un goût hyper sucré mais riche en calcium ou dans un hamburger vendu avec un jouet en plastique? Il faudrait légiférer sur l'étiquetage et également sur le marketing digital, à savoir toute la promotion qui est faite sur les réseaux très prisée des jeunes, poursuit le docteur Farbour Lambert. On pourrait également proposer des mesures incitatives en baissant la TVA des produits plus sains. Donc ouais. Enfin, il convient de mettre en place une taxe sur le sucre. C'est vrai, vous savez, on est dans un monde où la morale domine, en tout cas, surtout en France. Et je trouve ça bizarre, étrange, que celui qui vous propose des légumes, de la viande de bonne qualité, des œufs, même des produits céréaliers, mais bruts, complets, etc., soit autant pénalisé en termes de taxes que quelqu'un qui ne va pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça serait intéressant de voir comment, ou alors il faut, ouais, de voir comment on pourrait justement encourager ça. Alors la TVA, peut-être que ce serait quelque chose d'intéressant. Mais on parle du marketing. En fait, moi, mon point de vue, et j'en avais parlé avec quelqu'un que j'ai eu en rendez-vous là il y a pas longtemps, On voit le marketing comme diabolique. C'est-à-dire que les enfants sont victimes du marketing des groupes industriels, des gros groupes industriels de agroalimentaires, etc., qui poussent à manger des aliments non propices à la bonne santé sur des ou à des heures de grande écoute, de grande audimat, on va dire, au niveau des enfants, etc. Et ça marche bien. C'est-à-dire que s'ils le font, c'est que les chiffres sont à la hausse, etc. Ils continuent, ils poussent. Au lieu de chercher à combattre ça, c'est une arme très puissante. C'est-à-dire que le marketing agit très souvent sur les émotions. C'est-à-dire, vous avez raté votre vie si vous n'avez pas ce produit, en gros. Ou on vous fabrique un problème auquel vous n'avez même pas conscience, vous n'aviez pas conscience d'avoir un problème, on vous le fout devant la tête, et du coup, vous dites, mince, comment je peux le corriger? Moi, justement, j'ai de quoi corriger ce problème avec mon super produit. Bon. Le marketing est très puissant et ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Au lieu de chercher à freiner le rouleau compresseur, pourquoi ne pas s'armer d'un rouleau compresseur inverse? C'est-à-dire que d'avoir un tank en face de ça, donc un service marketing aussi puissant. Moi, ce que je racontais à quelqu'un, il me disait, j'aimerais bien éduquer, il me dit, parce qu'il travaillait au niveau d'une mairie. Et il me dit, j'essaye de faire des petits fascicules pour, on essaye de travailler pour apprendre à manger mieux aux enfants et tout, d'avoir des bons conseils. Moi, ce que je lui disais, bon, déjà, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de faire ça, mais les enfants, si on leur parle de protéines, glucides, lipides, sous une forme d'éducation, sous une forme d'un cours de science, quoi, presque, je pense pas que ça leur plaise. Par contre, si on leur raconte des histoires, ça peut fonctionner. Si on leur raconte des histoires, donc pour faire très simple, tout le monde, tous ceux à peu près de ma génération, voire un peu plus vieux, le seul légume qu'enfant, enfin peut-être plus pour les garçons, mais enfant qu'on rechignait moins à manger que les autres, c'était quoi? Les épinards. Pourquoi? Parce que Popeye, parce que Gros Bras, il prenait une boîte d'épinards et il cassait la gueule au gros barbu là, je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait comme métier. C'était un bûcheron ou c'était un... Non, c'était quelqu'un qui pêchait, un pêcheur, ou je sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref. Donc manger des épinards, ça, c'était un peu la potion magique de Popeye. Et c'était, on y trouvait de l'intérêt en fait, parce qu'il y avait une histoire derrière. Moi, je pense qu'au lieu de faire du pédagogique aux gosses, ils auront le temps pour apprendre. Mais peut-être qu'on peut faire du marketing intelligent, c'est-à-dire d'utiliser des figures héroïques, des figures de je sais pas, en fait ce qui les dynamise en ce moment, et d'imposer justement ce genre de, enfin d'imposer, d'essayer de faire passer des messages bons pour la santé, parce que d'autres messages passent hein, qui sont pas bons pour la santé, mais ceux-là par la voie justement. Alors il y en a, ils vont dire c'est propagande, mais propagande pour quelque chose qui est censé être naturel et sain me semble cohérent. Quand ça ne l'est pas, on peut pas dire aux jeunes, ouais, mais ils font ce qu'ils veulent, on les laisse choisir. Non, si on laisse choisir n'importe qui, il va se tourner vers ce qui a la plus grosse explosion en bouche, donc ce qui est sucré, salé, gras, etc. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et après, vous allez me dire, oui, mais ces groupes-là, cette industrie agroalimentaire qui est, on va dire, inconnue, celle des légumes et tout, celle qui n'a que peu de moyens. Alors moi, je disais, l'idéal, ce serait d'aller taper à la porte des plus gros groupes style Coca, McDo et tout, et d'aller piquer leur chef marketing. Bon, impossible de proposer une somme équivalente à ce qu'ils gagnent, j'imagine, dans ces grands groupes. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal, de prendre ces meilleures personnes-là et de leur dire, maintenant, vous allez bosser, vous vous débrouillez, vous faites devenir le brocoli ou la courgette, la potion magique des enfants, la potion magique de l'énergie, de je sais pas quoi. C'est pas possible, globalement. Enfin, personne n'aura les moyens de payer ces gens-là, et ces gens-là veulent, enfin bon, voilà. Après, il y a la morale, il y a tout ça, donc, enfin bon, bref, vous avez compris. Par contre, est-ce que des groupes comme Pixar, Disney, Marvel ne peuvent pas devenir de vrais super-héros? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des super-héros, c'est très bien de montrer des super-héros aux enfants, mais eux-mêmes, ces groupes, pourraient devenir de vrais super-héros en faisant passer des messages de santé dans leurs films dessins animés pour enfants. Et donc, du coup, par cette action massive, c'est des choix alimentaires, il suffit juste de placer, par exemple, des bons comportements à l'intérieur de ces films, etc., ça pourrait avoir un effet, puisque ce sont des films qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires, là, de je sais plus comment on appelle ça, le milliard d'entrées ou milliard de... Enfin bon, bref, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, et là, ils deviendraient vraiment des vrais héros, pas que des diffuseurs de super-héros, mais eux-mêmes deviendraient de vrais super-héros. Donc je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Et au lieu de montrer les super-héros dans un fast-food ou quoi, bah les montrer je sais pas, peut-être ils vont chercher leurs légumes, peut-être ils plantent des trucs, j'en sais rien, mais les enfants en fait ils aiment les histoires. Voilà, et les adultes aussi hein, on dit je parle des enfants, mais les enfants c'est plus que nous on a quand même un recul, mais il y a aussi des histoires pour nous hein. Regardez Starbucks par exemple, il y a une histoire derrière hein. Si tout le monde a envie de mettre un selfie Starbucks sur Instagram, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une histoire hein. C'est pas n'importe quel café, etc. Les enfants c'est pareil, et ça peut être très intéressant justement que des gros groupes comme ça, je pense pas que ça leur coûte grand chose hein, sauf, évidemment, s'ils touchent un cachet pour mettre des produits malsains à l'écran. Alors là, c'est autre chose. Et si c'est le cas, ça me semble un peu immoral pour un pays de contes de fées, un monde supposé de contes de fées et bon pour les enfants, s'ils touchent des cachets de... Mais je pense pas, je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus toléré. Enfin bon, je suis peut-être naïf. Mais bon, dans l'autre sens, moi, je trouve que c'est intéressant. Bref. Donc voilà. Voilà mon point de vue sur cet article. Deuxième article que je voulais développer avec vous. Ah oui, avant de terminer, ce que j'avais dit à la personne justement avec qui j'étais en rendez-vous, je lui avais dit, bah, par rapport à ton projet pour aider les enfants, juste je voulais terminer là-dessus parce que je sais que peut-être dans les gens qui m'écoutent, ça les intéresse. Dans l'équipe que vous avez, souvent, vous dites, bon, ben, je fais appel à la nutritionniste et puis le service psychologie peut-être, j'en sais rien, et puis on essaye de développer un petit fascicule pour aider les enfants avec des mots qu'ils comprennent, etc. C'est très bien. Allez chercher aussi la personne qui s'occupe du marketing. Je sais pas où, dans le groupe où vous êtes. Il y a forcément quelqu'un qui s'occupe un peu, vous savez, de l'infographie et tout, des petits fascicules, des mairies et tout. Il faut que cette personne soit là. Et moi, je pense que la question à lui poser, c'est, voilà ton objectif maintenant, un peu comme dans le Loup de Wall Street, vous savez, la réplique, vendez-moi ce stylo. Ben là, en gros, c'est vendez-moi ce brocoli. Et trouve-moi le moyen et imagine que je sois un enfant, quoi. C'est pas le brocoli en tant que tel, mais c'est les produits sains, quoi. Les produits sains, les bons produits. Et même de dire ça, je suis un peu mal à l'aise. Vous savez quoi? C'est bizarre de dire comment encourager des enfants à bien manger. Et alors, les pousser à... Ça me dérange de dire ça, alors que d'autres n'occupent pas ils poussent du burger, du machin, sans aucun scrupule. Donc on voit bien qu'il y a quand même des différences en termes de perception des choses. Mais voilà, une entreprise est là pour faire du business. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment aider, à mon sens, je me remets dans la peau d'un enfant que j'ai pu être, et vous aussi, le très académique, c'est pas très motivant. Par contre, quand il y a une histoire derrière, etc., une histoire un peu inspirante, où on peut s'identifier en tant qu'enfant, il me semble que ce soit plus attrayant, plus attractif, quoi. Bref, deuxième sujet, peut-on utiliser les huiles à utiliser en friture? Alors, vous savez, je vous recommande pas de frire vos aliments. Mais par exemple, si vous cuisez un petit peu plus à haute température, certains produits, il y a des huiles qui vont tenir, d'autres non. Donc typiquement, les huiles à éviter, l'huile de lin et tout, c'est bon, c'est pas stable à la chaleur, c'est pas forcément terrible. Et voilà les huiles qui ne se chauffent pas à haute température. Donc d'une manière générale, ils disent donc là. Il conseille de ne pas chauffer les huiles ayant une quantité importante d'acide gras polyinsaturé, comme l'huile de tournesol, mais aussi de lin, pépins de raisin, maïs, soja, cameline, macadamia. Prudence avec l'huile de colza, les huiles monoinsaturées, olives, noisettes supportent mieux la chaleur, mais il ne faut pas trop monter en température. Donc ils disent également que quelle est la meilleure huile pour faire de la friture? Donc tournesol, arachide ou olive, il pose la question. Vous pouvez choisir l'huile d'arachide qui est stable jusqu'à 220 degrés. mais également l'huile d'olive à condition de ne pas dépasser 180 degrés. Je sais qu'il y a des gens qui, pour l'huile d'olive, ne veulent jamais l'utiliser à la température. Moi, je vous l'ai souvent dit, si vous ne dépassez pas les 180 degrés, ça peut être quelque chose à utiliser. Bon, pour pas dépasser les 180 degrés, à la poêle, ça va être compliqué. Mais vous pouvez quand même, hein, avec des cuissons très douces. Mais sinon, ça sera plus, par exemple, au four, cuisson douce, etc. Il continue en disant, l'huile de tournesol n'est pas une huile à recommander. Son ratio oméga 6, oméga 3 est de 120 contre 1. Il ne devrait pas dépasser les 4 contre 1. Cette huile excessivement riche en oméga 6 creuse encore plus le fossé entre oméga 6 et oméga 3, qui est déjà assez grand dans notre alimentation. Elle n'est pas stable à la chaleur, son utilisation pour la friture n'est donc pas recommandée. Alors que c'est globalement, je crois, celle qui est utilisée de tout le temps, quoi. Bon, de toute façon, là, alors macadamia, je sais qu'on peut légèrement la chauffer aussi, mais pas trop. Je crois que l'huile d'avocat aussi, mais bon, il faudrait à vérifier. Ça tient un petit peu, mais de toute façon, les huiles, à part dans les graisses saturées, par exemple l'huile de coco, c'est un peu complexe quand même de dès que vous vous brûlez une huile, de toute façon, il y a quand même un effet négatif. Déjà, en fait, c'est dans le concept même, la friture. Globalement, à mon sens, hein, quand on essaye de faire attention, la friture ne devrait être qu'exceptionnelle dans l'alimentation. C'est-à-dire que ça devrait être des plats temporaires, ponctuels, et pas la friture ne devrait pas être au quotidien. Par exemple, faire frire ses œufs à température très forte, un peu les œufs frits à l'américaine, là, bon, moyen quoi. Vous savez, un peu comme dans le générique de Dexter, les premières saisons, là, où on voyait ces œufs qui étaient en train de frire. Ça, on va plutôt éviter, quoi. Bon, après, il parle aussi, je pense, certainement du beurre GHEE, ou le ghee, comme certains l'appellent. C'est quelque chose qui est, mais après, on est plus de l'ordre des graisses saturées, quoi. On sort, des acides gras plutôt, même si ça reste des acides gras intéressants, hein, on est d'accord, mais on a vite fait en graisse saturée de monter au-dessus du plafond, quoi. Alors, toujours sur le même site, il y avait une petite recette que j'ai vue, que je vais tester, je voulais vous la partager aussi, c'est Dosa, la crêpe fermentée ayurvédique. Donc, en fait, c'est une crêpe. Alors, le Dosa, alors là, le, je sais pas comment on dit, est une, le, alors eux, ils disent le Dosa est une crêpe à base de farine de lentilles noires, de pois chiches ou de riz, typique du sud de l'Inde. Le nom véritable est Dosé. Donc D-O-S-A-I, mais l'appellation indienne courante est Dosa. C'est un mets très populaire consommé à toute heure, même au petit déjeuner, c'est ce qu'il raconte. Alors là, je vous donne du brut Wikipédia, hein, pour le coup, parce que je ne connaissais pas la définition de cette crêpe Dosa. Et la nutrition.fr propose une recette, donc c'est Sarah Amiri, diététicienne, qui dit que il est temps de faire un petit ménage de printemps dans vos intestins, comment en favorisant les aliments que préfèrent les bonnes bactéries et en réduisant les conditions qui font la place aux mauvaises. Donc préparation 20 minutes, fermentation un jour et demi, cuisson 20 minutes. Pour deux personnes, 180 grammes de riz long, basmati ou semi-complet. Donc déjà, on voit qu'elle essaye d'avoir un index glycémique plutôt cohérent. 80 grammes de lentilles corail, une cuillère à café de vinaigre de cidre, tamari ou miso. Une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de GHEE, de l'eau, du sel, autre épice selon les goûts, fenugrec, grec, cannelle, gingembre ou cumin. Alors, vinaigre de cidre, tamari ou miso, je comprends pas trop. Enfin, ou alors ou du tamari ou de la pâte miso, c'est ça qui. Enfin voilà. Ou alors il y a du vinaigre de cidre tamari, mais ça m'étonnerait. Enfin peut-être que je me trompe. En tout cas moi c'est pas celui que j'utilise. J'ai du vinaigre de cidre d'un côté et de la sauce tamari ou de la pâte miso d'un autre. Bon, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de GHEE, de l'eau, du sel, autre épice comme je disais. Donc au niveau de la préparation, donc rincer le riz et les lentilles séparément, faire tremper séparément pendant toute une nuit. Donc séparément les deux ingrédients. Le lendemain, les rincer puis mixer le tout. Donc globalement, ça aura gonflé durant la nuit. Les rincer puis mixer le tout dans un blender, donc sans les cuire, en ajoutant de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse et homogène, puis liquide jusqu'à plus qu'une pâte à crêpes. Donc faut que ce soit plus liquide qu'une pâte à crêpes. Placer dans un bol suffisamment grand, couvrir et laisser fermenter 24 heures à température ambiante. Donc déjà, la veille, il faut les faire tremper. Vous les mettez le lendemain matin. Vous mixez tout ça, vous faites la prépa, vous laissez 24 heures et vous pourrez les cuisiner que le 24 heures après, quoi. Faire chauffer la matière grasse dans une poêle, faire dorer de chaque côté durant quelques minutes, accompagner les dosas avec des crudités. Alors moi, pourquoi ça m'intéressait de vous partager cette recette? Parce que c'est vrai que, bah déjà, ça vous permet de doser exactement la quantité de par exemple, si vous prenez des doses, comme vous faites vos crêpes dosa, là, vous pouvez clairement en préparer à peu près, si vous avez une louche qui pèse, je sais pas, X quantité de pâtes, ça vous permet de faire des portions qui sont bien adaptées, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes quantités. Ensuite, ça permet aussi, si vous êtes modeste, si vous n'avez pas une poêle monstrueuse et que vous avez une petite poêle pour les préparer, de vous faire, par exemple, des petits wraps, etc., avec, comme ils disent, avec des crudités, une source de protéines et tout, qui me paraissent cohérents, quoi. Et surtout, ça apporte un petit peu de variété dans l'alimentation, qui est, pour beaucoup, se résume à du riz et parfois du riz complet. Là, ça change un petit peu en ayant, dans l'assiette, quelque chose de différent. Et ça, je sais que beaucoup le négligent, et c'est pour cette raison que pas mal de personnes, parfois, sont capables de faire des régimes très structurés pendant quelques mois, et voire quelques semaines à peine, et après, ils sortent des clous. Parce qu'en fait, ils sont dans l'optique régime. Et ils sont pas dans l'optique je mange de manière cohérente, mais de manière tout le temps, en fait. Il n'y a pas de régime et puis de pur régime. Et moi, je suis convaincu qu'une un des gros points forts de la variété, c'est la réussite. C'est-à-dire que plus vous allez varier, non pas forcément les aliments, mais la façon dont c'est présenté devant les yeux, plus vous avez de chances de réussir. Et ça, ce genre de choses, c'est vrai que quand vous êtes habitué à avoir toujours le même type de glucides, là, vous vous mettez à manger finalement une sorte de crêpe, un peu wrap, un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, presque comme des faritas, quoi, ça peut devenir intéressant. Alors, on avait déjà, nous, détourné certaines crêpes ou pancakes pour essayer d'en faire des prépas comme ça. Là, moi, je connaissais pas du tout cette recette venant d'Inde. J'avoue que je vais essayer de la faire, parce qu'en plus, les deux ingrédients, je les ai. J'essaierai de faire ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, moi, c'est vrai que je suis de l'éducation qui a peur que ça tourne. C'est-à-dire que moi, un produit comme ça qu'on laisse poser et tout, j'ai toujours peur que ça tourne. Alors qu'aujourd'hui, on voit que certains trucs fermentés, c'est bien, quoi. Mais bon, globalement, c'est parce qu'il y a le tamari miso au vinaigre de cidre. Et ça permet justement de stabiliser un petit peu ça, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, vous me direz si vous allez tester ou pas. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai bien envie de tester. Alors, autre sujet. Alors, vous savez, moi, je préfère les sujets positifs. J'ai du mal avec les sujets négatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du négatif, on allume la télé, on en a tout le temps. Donc, j'aime bien, moi, quand même, avoir des sujets positifs. Là, malheureusement, le gros titre de l'article, c'est « Confirmé, les faux sucres sont liés à un risque accru de cancer jusqu'à 13%. » Donc, qu'est-ce qu'ils entendent dans les faux sucres ? Globalement, le plus populaire étant l'aspartame. Donc, ou E951, qui représente entre 56 et 60%. Ensuite, on va avoir, je pense que dans la, alors attendez, car ce sont les plus utilisés. Donc voilà. Donc, les plus utilisés. Donc, l'aspartame domine. Ensuite, nous avons l'acésulfane K, E950, entre 28 et 30%. Suivi du sucralose entre 9 et 10%, donc E955, et d'autres entre 2,1 et 3%. Donc ils ont suivi, j'imagine, des gens où ils ont récolté des données. Alors je sais plus le nombre de personnes qu'ils ont suivi, je l'ai vu. Donc il y avait 100 000 volontaires de mémoire, et c'est entre 2009 et 2021. Et en fait, ils disent, alors, que je retrouve, dans un premier temps, ils parlent de plus sucré, mais la notion de cancer, je l'ai vu où? Ah là là, c'est mal préparé, Théo. Ah voilà. Ainsi, la présente étude révèle que plus que les deux autres édulcorants, l'aspartame apparaît comme l'édulcorant étant associé à un risque accru de cancer du sein, avec une probabilité de 22% supérieure pour les plus grands consommateurs. De manière globale, le taux de cancer était de 15% plus élevé pour les grands consommateurs d'aspartame et de 12% plus élevé pour les consommateurs modérés. De manière similaire, les taux de cancer sont de 13% plus élevés pour les grands consommateurs d'acésulfane de potassium et de 12% pour les consommateurs plus modérés. Enfin, le sucralose semble présenter l'association la moins forte avec le cancer. Les taux n'étaient pas plus élevés pour les gros consommateurs et 3% plus élevés pour les faibles consommateurs. Bon, on est toujours mal à l'aise avec les édulcorants parce que évidemment même les meilleurs qui vendent des compléments alimentaires en mettent dans leurs compléments alimentaires et pour cause les gens ont du mal à se passer de produits sucrés donc moi je pense que dans le café par exemple ça devient intéressant de commencer à apprécier le café pour ça sinon un café avec sucrète ou quoi c'est un coca quoi c'est des caféines des goûts sucrés mais bon essayer de s'en passer ça peut être intéressant mais c'est surtout que le encore une fois ce qui est responsable de ça c'est de faire croire aux gens qu'il y a des moyens vous savez j'en parle très souvent il y a des moyens de conserver le plaisir du sucre sans les inconvénients. Sauf que les inconvénients qu'on va pas avoir au niveau du tour de taille, encore ça s'est pas confirmé, on les retrouvera ailleurs. Et déjà qu'on est assez peu à l'abri de plein de saloperies qui nous entourent, sur ce genre de choses, moi je trouve que... Alors je suis pas, comment on appelle ça, trop strict, c'est-à-dire il faut tout supprimer, mais... En tout cas, moi, je lutte contre la pensée qui dirait que tu peux y aller à volonté, quoi. Juste prenez conscience, si vous en consommez encore des édulcorants, ok, mais pas de manière mécanique et automatique. C'est-à-dire que si vous buvez 2 ou 3 cafés par jour, ou 1 ou 2 thés par jour, peu importe, et que vous en avez de manière systématique dedans, et que vous mangez, vous prenez des shakers de protéines où il y en a encore, et que vous prenez une canette de soda zéro, etc. Si vous êtes dans la culture du zéro avec édulcorant et tout ça, que vous avez la petite pâte à tartiner ou la petite confiture fitness qui va bien, ou les barres de protéines et tout ça. Ça fait quand même un apport d'édulcorant relativement élevé. Pareil, si vous consommez par exemple des chocolats dits sans sucre, qui sont en fait gavés de sucre, mais d'autres sucres en fait. C'est des trucs qu'on met dans les chewing-gums et tout ça, ou des édulcorants. Ben vous vous retrouvez à être assez exposé. Et finalement, les personnes qui veulent prendre le plus soin de leur santé, c'est peut-être ceux qui vont se retrouver le plus exposés aux édulcorants et au plus exposés au pourcentage de cancer et compagnie. Donc, moi, je suis toujours assez mal à l'aise avec ça. C'est vrai que quand on a une personne qui démarre un régime et qui dit par quoi je peux remplacer tout un tas de choses, ben il y a un moment donné où par rien en fait, par rien, parce que remplacer quelque chose par une autre, si la personne est en surpoids, il y a des choses à supprimer mais pas à remplacer. Alors évidemment, le bon conseil, ça pourrait être, tu peux remplacer par des légumes. Ouais, mais ça a pas le même goût. Oui, mais c'est ce qui te ferait du bien. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils se mettent au régime, ils disent mais j'ai tout le temps faim, je mange rien. Mais en fait, il y a quelque chose que tu peux manger à volonté. Ce sont des légumes à feuilles vertes, évidemment, pas de la pomme de terre, mais des légumes, de la salade et tout ça, tu peux y aller, quoi. Tu peux en manger et tu peux combler ta faim avec. Donc c'est pas la faim qui tiraille au régime pour beaucoup de personnes. C'est le sentiment de ne pas se faire plaisir quand ils mangent. Et pour ça, il y a des outils. Bon, j'en ai déjà parlé largement sur le site, notamment le Hard Reset Nutrition, les goûts. Donc allez voir celui-là, vous tapez Hard Reset Nutrition Goût sur mon site dans la barre de recherche et vous trouverez un cours là-dessus qui est, quand vous l'aurez vu, après vous verrez plus la bouffe et le goût et les restrictions de la même façon, puisque en fait on parle plus de restrictions, quoi. Bref, je passe à la question de l'auditeur qui, de manière anonyme, donc vous pouvez vous aussi m'en poser dans le formulaire qui se trouve dans les notes de l'émission. Sa question est la suivante. Bonjour, merci pour toutes les connaissances. Non, c'est pas ça. Alors, ça c'est une autre question. Je l'ai noté sur l'article, donc elle est là. Oui, voilà. Bonjour, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur la stagnation du poids et comment peut-on y remédier en prenant compte du morphotype ? Merci d'avance. Alors déjà, les morphotypes, ça reste tout de même une bride mentale à la progression. Même si je crois que c'était Sheldon qui, alors pas celui de Big Bang Theory, hein, qui avait conceptualisé ça, je sais plus à quelle époque d'ailleurs, mais l'idée des morphotypes, c'était que en fonction de votre gabarit, de votre ossature, etc., vous étiez plus propice à être sec et musclé ou à être gras. Voilà. Et moi, j'avais publié une photo, ça remonte à très loin, où je disais, je suis les 3 morphotypes à moi tout seul, parce que quand j'avais 15 ans, enfin, 13, 14 ans, j'étais maigre, puis après, j'ai grossi, puis après, et j'étais musclé, puis après j'ai resséché. Donc en fait, j'étais plus sec et musclé. Donc du coup, je reflétais entre guillemets les trois morphotypes sur une seule et même personne. C'était étrange. C'était juste pour montrer qu'en fait, que si on se base juste sur le visuel, tout au long entre mes 13 et mes 25 ans, je pouvais vous montrer trois morphotypes différents. J'aurais pu vous dire, regardez, j'ai manipulé mes morphotypes et tout. En fait, c'est plus pointu que ça, c'est-à-dire que moi, au lieu de parler de morphotypes, je préfère parler de comment dire, de passé, de présent, de futur. C'est-à-dire que quel a été ton passé jusqu'à aujourd'hui? Donc, est-ce que tu as été quelqu'un qui a lutté contre le surpoids toute ta vie, qui a souffert de ça, ou qui a plutôt eu tendance à être le petit gras du groupe, ou la personne qui avait plus de mal à stabiliser son poids parce que elle prenait facilement, ou est-ce que t'as plutôt été une personne complexée de sa maigreur? Un garçon, par exemple, sera complexé de ses jambes trop maigres, etc. Quand il se sent mince, il se mettra en t-shirt large, il osera pas aller à la piscine, exactement comme une personne en surpoids. Faut pas croire que vous savez, moi j'ai plutôt un passif en surpoids. Donc quand j'étais ado, moi enlever le t-shirt, ça m'ennuyait au bord de l'eau parce que, et quand on est habillé et un peu costaud, un peu grassouillé, on donne le change un peu en se disant bon bah on fait un peu imposant, mais bon toute la virilité qu'on peut avoir habillé elle disparaît quand il y a un petit peu de bourrelet quoi. Et donc se mettre torse nu au bord de l'eau, ça me posait problème à côté de mes amis. Mais jusqu'à la fin de l'adolescence, je me rendais pas compte que les personnes très maigres vivaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour en avoir parlé avec aujourd'hui des amis qui ont l'âge que j'ai, donc à peu près entre 30 et 40 ans, hein, donc dans mon groupe d'amis, dans mon cercle d'amis, c'est à peu près la tranche d'âge qu'on a entre 30 et 40, je me rends compte que il y en a qui voulaient avoir la petite bedaine. C'est-à-dire que je me rappelle même sur la plage une fois un pote qui me disait « Ah, mais moi, il faut que j'arrive à prendre du poids, j'ai envie d'avoir mon petit ventre, mon petit bide. » C'est quelque chose que les personnes anciennement en surpoids, ils luttent pour ne plus jamais avoir ça, et ceux qui ont été un peu en sous-poids, ou plutôt se juger comme maigres, veulent avoir. Donc les angoisses sont les mêmes, et les objectifs sont quasiment, en fait, on attend des changements, les mêmes choses, en fait, à chaque fois. On veut un peu se réguler, parce qu'on juge qu'on est trop dans un extrême ou dans un autre. Donc c'est pour ça que quand je te parle de morphotype, moi je m'en fous des morphotypes, ça m'intéresse pas du tout de savoir quelle génétique j'ai. Est-ce que ça va me condamner à... Parce qu'en fait, les morphotypes, ça a une forme de condamnation, c'est-à-dire tu ne seras jamais comme ça parce que tu es tel morphotype. Et ça, en fait, moi ça me gonfle toutes ces brides, etc. Je préfère qu'il y ait des brides sérieuses à la limite, mais pas des brides comme ça. Et donc, de plutôt se baser sur ton passif, tu étais maigre, tu étais en surpoids, est-ce que tu as lutté pour quelque chose jusqu'à aujourd'hui, plutôt le sous-poids, plutôt le surpoids? Déjà, ça te donne une indication sur ce que tu es. En faisant de la musculation, si tu as toujours été en sous-poids et que tu as du mal aujourd'hui à prendre du poids, c'est que, voilà, globalement, c'est juste ton passé qui voilà, c'est cohérent avec ton passé. Par contre, si tu as toujours été en surpoids et que là, tu as du mal à reprendre de la masse musculaire, il faut voir si t'es pas resté dans une stratégie de perte de poids trop longtemps. C'est-à-dire que t'es pas resté dans une stratégie de « waouh, victoire, j'ai réussi à perdre le poids que je me trimballais depuis des années et maintenant, je suis angoissé de prendre le moindre gramme. Donc, à chaque fois que je démarre une prise de masse musculaire, je fais 2 repas prise de masse, puis après, je vois à peine un peu de rétention d'eau qui s'installe et tout, et je fais marche arrière, je jeûne, je fais du cardio à jeun, je mange en glucides pendant une semaine pour vite réguler. Et effectivement, là, ça ne peut pas se déclencher. Par contre, si c'est dans une stratégie complètement logique de prise de masse musculaire, que t'as pris, et puis maintenant ça stagne, bah déjà, ton organisme, c'est pas une machine à fabriquer de la viande en permanence, hein. Faut se dire une chose, c'est que le processus anabolique est quand même déjà lent, et en plus de ça, c'est pas permanent. Il y a un moment donné où le ratio graisse-muscle va être un peu plus important. Fais une petite pause, mange à maintien. Peut-être qu'au niveau musculaire aussi, au niveau entraînement, t'as trop forcé. Il faut y aller quand même pour trop forcer. Hein. Je sais pas si t'es un athlète de haut niveau, mais globalement, si tu te prends une semaine, 15 jours de repos toutes les 10-15 semaines d'entraînement, ça va. Mais globalement, voilà, tu fais une petite pause sur ça parce que peut-être que tes intestins, pareil, si tu bouffes 6 repas par jour, ils commencent un petit peu à s'épuiser. tu te laisses reposer un peu avec 3 repas par jour pendant une semaine, tu t'entraînes pas et tout, tu reprends un peu tes esprits, tu prends un peu de recul sur tout ça et puis tu repars. Mais déjà, tu vois, la stratégie de quand t'es en prise de masse, si tu prends de la masse musculaire et si tu lèves un peu le pied sur les repas, tout de suite, si tu laisses ton appétit dicter tes repas, tu vois que tu perds du poids, tu vois bien que c'est pas sain. C'est-à-dire que ton appétit ne correspond pas au poids que tu maintiens aujourd'hui. Et moi, je reste convaincu que ta masse musculaire, enfin, ce que tu fais de ta journée oriente ton appétit. C'est-à-dire que si tu demandes à ton corps de fabriquer suffisamment, ton appétit va suivre. C'est-à-dire que tu vas avoir faim en fonction de ce que tu fais. Ça, c'est vrai si tu ne l'as pas perturbé par de l'absence, enfin de l'inhibition, de sensation de faim. Et cette inhibition, on peut la développer par exemple chez des personnes qui font un régime. Ils vont ne plus écouter leurs signaux de faim parce que justement, c'est ce qui les aide à suivre un régime, et c'est ce que je recommande aussi. Hein. Si à la moindre petite faim que vous ressentez, vous vous gavez, vous perdrez pas. Mais il y a des personnes qui ont réussi en fait à prendre tellement de distance par rapport à ces signaux-là qu'ils ne savent pas réellement s'ils ont faim, pas faim, etc. Donc je sais pas d'où tu viens parce que forcément là dans ton message, tu me dis pas qui tu es, tu me dis pas ton passé et tout. J'essaie de donner de ratisser l'arbre pour donner des conseils, mais la stagnation du poids. Il faut voir si déjà tu ne manges pas trop peu, donc si c'est en début de progression, ça fait 15 jours que t'as démarré ta muscu, que t'es en stagnation de poids et que t'es déjà sec de base, hein, je te parle pas avec un surpoids, hein, je te parle sec avec les abdos apparents et que ton poids ne monte pas, bon bah globalement tu manges pas assez quoi. Il y a un moment donné il faut manger un petit peu plus. Après si ton poids stagne mais que t'es pas réellement sec, que t'es mi-figue mi-raisin en gros, t'as pas les abdos mais tu veux quand même prendre du muscle, là ce qui peut se passer en fait, la stagnation de ton poids, c'est que peut-être que tu prends un peu de masse musculaire mais qu'aussi tu perds du gras. Donc il y a une forme d'équilibre qui s'installe et ton poids est plutôt stable mais ton physique peut changer. Donc voilà, moi c'est les deux choses que je verrais sans avoir plus de précision parce qu'encore une fois c'est très compliqué et puis en plus je te donne pas une réponse qu'à toi, je la donne aussi à plein d'autres personnes qui pourraient écouter ce podcast et qui seraient intéressées par la question quoi. Mais globalement, stagnation du poids, essaie de voir. De toute façon, ça sert à rien de si tu manges déjà au-delà de ton appétit aujourd'hui, ça sert à rien de te faire vomir, tu vois, à manger trop. Non, il y a un problème. Il faut que ton appétit, tu travailles plus sur développer ton appétit, être plus intense à l'effort, etc. Ou en tout cas t'entraîner plus de manière plus cohérente pour justement réussir ça, quoi. Et puis souvent, attention encore une fois aux repas copieux du soir. Même quand on cherche à prendre du poids, pourquoi ? Parce que les repas copieux le soir perturbent grandement le sommeil. On dort moins bien quand on mange très lourd le soir, même si on est écrasé et qu'on s'endort facilement, on dort moins bien, la qualité du sommeil est moindre. Mais c'est surtout que le matin, on a moins faim également. Donc faites attention à ces repas trop copieux. Faites en sorte que vos repas soient suffisamment denses pour votre prise de masse, mais pas trop copieux pour pas vous faire sauter une collation ou le repas suivant quoi, parce que beaucoup de personnes me disent Théo, je mange énormément. Alors certes le midi il mange beaucoup, le soir il mange beaucoup, mais il y a que ça en fait dans la journée, il y a pas de collation et le matin il se réveille, c'est café travail quoi, direct, il y a pas de petit déj parce qu'ils ont pas faim, ils ont pas le temps, etc. Donc finalement c'est des gens qui mangent peu, ils mangent rien en fait, hein. C'est facile hein de manger beaucoup quand on fait 2 repas par jour, mais après de manger suffisamment quand on en fait 3, donc matin, midi, soir, plus 2 collations, admettons, donc ça fait 5 prises alimentaires, là ça devient plus difficile. Donc voilà, et puis si t'es sur un modèle 3 repas par jour ou jeûne intermittent ou quoi, bah c'est peut-être le moment pour toi d'intégrer des collations des collations liquides hein, au début pour pas surcharger ton système digestif et puis progressivement de passer sur du solide. Voilà. Je m'arrête ici pour ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé. Allez voir le programme Slow Training dans les notes là, justement le Slow Training, prendre du muscle en s'entraînant lentement. Vous l'avez dans les notes de l'émission et on se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement, donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.